crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous avons une émission très particulière puisque nous célébrons l'aventure d'un musée extraordinaire, les 10 ans d'un musée qui nous passionne, dont nous avons souvent parlé sur cette antenne, le musée du Quai Branly, 10 ans donc. C'était en effet le 20 juin 2006 que l'ancien président de la République Jacques Chirac inaugurait le musée du Quai Branly.
Art premier, art primitif, les termes sont conventionnels, donc commodes, même s'ils donnent lieu à une querelle sémantique. Ils ont cependant, à mes yeux, le double défaut de définir des sociétés en fonction non de leurs caractéristiques propres, mais de leur contribution ponctuelle à l'histoire esthétique de l'Occident, et surtout, ce qui est plus grave encore, de prétendre désigner des peuples sans histoire. Or, il n'y a pas de plus grande injustice que de refuser à un peuple le droit à l'histoire.
C'était Jacques Chirac à l'inauguration du pavillon des sessions au Louvre en 2000. L'ancien président de la République, passionné des cultures extra-occidentales, et fut à l'origine du musée du Quai Branly. Cette origine, c'était aussi une amitié avec Jacques Kerchache, une amitié aussi, évidemment, avec Stéphane Martin. Depuis le 21 juin, je le signale, une exposition a ouvert, elle est passionnante, au Quai Branly, qui lui rend hommage. Cette exposition s'intitule Jacques Chirac ou le dialogue des cultures, et elle dure jusqu'au 9 octobre. Et pour parler de cette histoire incroyable qui plonge ses racines au moins au milieu du 19e siècle, je suis heureux de recevoir aujourd'hui Stéphane Martin, le président du musée. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, ravi d'être avec vous.
Nous sommes ravis aussi, c'est quand même un grand événement, c'est une aventure qui, en fait, n'a pas arrêté d'être incroyablement périlleuse. Il y a sans cesse eu, depuis les 150 ans que vous n'avez pas vécu, mais que ce musée a vécu pour naître, des périls, des passions, c'est rare à ce point-là.
Oui, c'est vrai que c'est une longue histoire, et on finissait d'ailleurs par presque l'avoir oubliée quand Jacques Chirac l'a réveillé un beau matin de 1995. En appelant son ministre de la Culture de l'époque, dont j'étais le directeur de cabinet, en lui disant « Voilà Philippe d'Ousteblasi, il faut que vous receviez mon ami Jacques Kerchache, on va faire un département des arts premiers au Louvre ». Voilà, tout a commencé comme ça, et alors je revois encore la tête de Philippe d'Ousteblasi, qui là-dedans voyait à peu près ce qu'on Louvre désignait, mais pour le reste était un peu perdu, et on a vu arriver Jacques Kerchache.
Ça a été le début d'une incroyable aventure. Il faut rappeler peut-être que Jacques Kerchache, dans les années 90, alors on parlera du personnage, on racontera tout à l'heure pendant cette émission d'où il vient, ce qu'il a fait, etc. Mais en 90, me semble-t-il, avait lancé une pétition pour les arts premiers au Louvre. Est-ce que c'était
ça ? Oui, absolument. En fait, si j'ose dire, Jacques Chirac était en quelque sorte son deuxième choix ou la deuxième partie de son aventure, parce que il avait essayé de convaincre François Mitterrand. Il avait lancé donc ce manifeste qu'il avait publié dans Libération, et il avait d'ailleurs, je crois, convaincu Jacques Attali, mais il n'avait pas réussi, François Mitterrand avait d'autres projets.
Oui, Jacques Attali avait essayé d'être l'intermédiaire de cette affaire, et ça n'a pas abouti, voilà. Malheureusement.
Et ensuite, il a donc fait une sorte de siège amoureux très efficace de Jacques Chirac pour arriver à l'approcher, arriver à le convaincre. Ils se sont rencontrés dans des circonstances assez romanesques sur une plage, et il a convaincu Jacques Chirac d'abord de réaliser l'exposition Taïno. À partir de là, ils sont devenus amis.
Alors, c'était en quelle année l'exposition Taïno ?
Taïno, ça devait être autour de 92, puisque c'était pour célébrer l'anniversaire de la découverte de l'Amérique.
Alors, le Taïno, une grande culture caraïbe, Taïno et Arawak, c'est cette région-là, n'est-ce pas, Stéphane Martin ?
Oui, l'histoire, je ne sais pas si elle est
Saint-Domingue,
vraie ou pas, l'histoire raconte que Jacques Chirac avait dit au roi d'Espagne qu'il ne voulait rien faire pour célébrer cet assassin de Christophe Colomb, mais qu'il ferait une grande exposition comme maire de Paris pour commémorer le premier peuple qui a disparu à cause de la visite de Christophe Colomb, donc les Arawaks de l'Hispaniola, enfin, ce qui est aujourd'hui Saint-Domingue.
Alors, cette aventure, vous l'avez vécue avec passion, puisque depuis 98, vous êtes le président du musée du Quai Branly, depuis sa préfiguration. Est-ce que je me trompe, c'est 98?
Oui, en fait, donc je l'ai vécu depuis 95, et parce qu'il se trouve que j'étais un amateur, j'étais un tout petit collectionneur, et que je traînais dans la galerie de Jacques Herchage, qui était un marchand cher, prestigieux. Et donc, en arrivant au ministère de la Culture, Jacques Herchage, qui avait toujours eu affaire à beaucoup de rebuffades de l'administration des technocrates de la rue de Valois, voit un garçon dans le bureau du ministre qui se trouve être un de ses clients, en tout cas quelqu'un qui traîne dans sa galerie.
Et qui est passionné, parce que vous aviez vécu en Afrique, voilà, vous étiez voyagé dans le Pacifique, enfin vous êtes un grand voyageur. Alors, aujourd'hui, quand je me balade et on me dit, tiens, Singapour, il vient de passer là, il se passionne pour cette culture étrange, sino-singapourienne, etc. Comment est-ce que ça s'appelle? C'est une exposition, ça aussi.
Les Peranakan.
Les Peranakan, exactement. Oui. Il y a un musée Peranakan à Singapour où vous êtes une star maintenant. je vais aux îles Marquises, on me parle de vous, on me parle de tatouages extraordinaires. Enfin, vous êtes conduit par des passions et une équipe passionnée aussi, je dois dire.
Oui, bah d'abord, je suis né, vous savez, je suis avec la génération des charters, c'est-à-dire j'appartiens vraiment typiquement à la génération des gens qui ont pu voyager pour pas cher. Et il se trouve que j'avais un père qui aimait voyager, une mère qui aimait voyager, les deux dans des directions opposées parce qu'ils n'étaient plus mariés. Et donc, ça m'a fait voir pas mal de choses assez tôt. Et en fait, bizarrement, quand je le revois avec le recul, je trouve ça bizarre, mais je suis entré dans l'administration parce que ça me paraissait le moyen le plus facile de voyager. Ça peut paraître paradoxal, mais je me voyais bien un peu, vous savez, comme un vice-consul en costume blanc fripé dans un film de Duras.
Sous un volcan, éventuellement.
Voilà, il me semblait que c'était le moyen le plus économique et le plus facile de voyager. J'avais sans doute tout à fait tort, mais finalement, je m'en suis pas trop mal sorti.
Alors, comme vous êtes un amoureux des objets, vous avez proposé qu'on évoque cette histoire de l'aventure des collections du musée du Quai Branly, dont les sources sont anciennes, à travers un certain nombre d'objets qui sont passionnants et problématiques. Donc, je pense que c'est le moment où on va commencer à les examiner. Mais pour commencer, peut-être, écoutons tout d'abord Malraux, qui rapporte les impressions de Picasso, qui visite l'ancien musée du Trocadéro en 1907.
Quand je suis allé au Trocadéro, c'était dégoûtant. Le marché aux puces, l'odeur. J'étais tout seul. Je voulais m'en aller. Je ne partais pas. Je restais. J'ai compris que c'était très important. Il m'arrivait quelque chose, non? Les masques, ils n'étaient pas des sculptures comme les autres, pas du tout. Ils étaient des choses magiques. Les nègres, ils étaient des intercesseurs. Contre tout. Contre les esprits inconnus, menaçants. Je regardais toujours les fétiches. J'ai compris moi aussi que je suis contre tout. Mais tous les fétiches, ils servaient à la même chose. Ils étaient des armes pour aider les gens à ne plus être les sujets des esprits, à devenir indépendants, des outils. Si nous donnons une forme aux esprits, nous devenons indépendants. Les esprits, l'inconscient, l'émotion, c'est la même chose. J'ai compris pourquoi j'étais peintre. Propos de Pablo Picasso, rapporté par André Malraux, 1974.
Lorsque Picasso parle des fétiches, on pense en général qu'il s'en est inspiré pour les formes, mais plutôt, quand on l'entend, c'est pour l'esprit, pour leur puissance d'exorcisme. Est-ce que vous ressentez cet double intérêt?
C'est un vaste sujet auquel on va consacrer une exposition l'année prochaine sous la houlette d'Yves Le Fur. Oui, je pense que ça va bien au-delà des formes. Je pense que c'est plutôt l'esprit des masques qui a inspiré Picasso plus que les formes. Il n'avait pas besoin, à mon avis, de ces masques pour fabriquer ses propres formes. Je pense que c'était quelque chose d'autre qu'il y recherchait.
Alors, il y a, dans les œuvres que vous avez proposées à examiner, il y en a une qui est très particulière. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est une peinture. Et cette peinture, c'est une peinture de Georges Catelin et qui est le portrait de Matehéha, ce qui veut dire vieil ours en Ijobois.
Je vous fais confiance.
Et c'est un homme médecine de la tribu des Mandans, peinte par lui en 1846. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire l'œuvre et nous dire peut-être quelques mots sur les raisons de choisir ceci pour introduire cette histoire des grandes collections nationales?
Alors, Kathleen est à la fois, je trouve, un très bon peintre, en particulier sa matière est très séduisante. Et en même temps, évidemment, un personnage absolument romanesque. Ce tableau est une copie, en réalité, réalisée par Kathleen pour le roi Louis-Philippe, auquel il était venu présenter des Indiens et qui voulait avoir quelques-uns des tableaux que Kathleen avait laissés aux États-Unis. Donc c'est une deuxième interprétation à partir d'un tableau qu'il n'avait peut-être pas d'ailleurs sous la main au moment où il a réalisé ce travail. En même temps, c'est un travail très précis, très méticuleux, qui a déjà, je trouve, une approche à la fois amoureuse et ethnographique du monde indien. Ça me paraissait important de rappeler que la collection d'un musée comme le Quai Branly, elle est faite de couches multiples.
C'est pardon, Stéphane, est-ce qu'avant que nous allions sur l'histoire du tableau, est-ce que vous pouvez nous le décrire vraiment, que nos auditeurs voient bien de quoi il s'agit?
Alors, ça représente donc ce chef, cet homme médecine, qui est presque nu, il a juste un pagne en tissu autour de la taille, et il tient dans chaque main une pipe d'homme médecine qui est décoré de différents ornements, de plumes, qui sont disposés en éventail. Il y a aussi des crins d'animaux, j'imagine, de cheval ou de cervidés. Et le décor extérieur est très, très sobre. Il y a une sorte de couleur de couchant derrière. On aperçoit vaguement l'ombre d'un paysage, une couverture à ses pieds, et on insiste beaucoup, je trouve que l'œuvre insiste beaucoup sur à la fois le mystère de cette parure et la très grande dignité de ce personnage qui n'est en rien ridicule ou ramené simplement au versant.
C'est pas un exotisme du tout, voilà, c'est quasiment une étude.
C'est une étude faite par manifestement quelqu'un qui connaît bien son sujet. Et Kathleen connaît bien son sujet, il a fréquenté longuement les Indiens et qui les regarde avec respect et affection.
Et donc il crée une sorte de musée ambulant et une collection où il y a à la fois les tableaux et des objets qu'il rassemble.
Oui, il fait partie d'une génération. Il y a un ou deux autres personnages du même acabit qui tenteront le même travail, qui est à un moment évidemment où les peuples amérindiens sont totalement dénigrés et matériellement massacrés, ou en tout cas on commence à les massacrer. Il veut montrer la merveille, la noblesse, la beauté, la diversité de ces cultures, déjà avec cet esprit ethnographique qui est ambigu, parce qu'avec l'idée que tout ça va disparaître, qu'il faut le capter avant que ça disparaisse. Il y a déjà cette ombre nostalgique, et il constitue à la fois un ensemble iconographique et une collection. Des objets qu'il achète, et des portraits qu'il peint, et qu'ensuite il reprend. Il reprend d'après des esquisses qu'il a fait sur le terrain, en studio, à l'huile.
Et il vient en Europe avec un groupe d'Indiens, qu'il va présenter au roi.
Oui, à Versailles d'ailleurs, il y a une sorte de mise en abîme de tout ça. Il y a un très célèbre petit tableau qui est conservé à Versailles et qui montre le roi Louis-Philippe et la reine et quelques courtisans en train d'admirer une danse que réalisent les Indiens et que leur présente Kathleen.
Ils vont vivre en France pendant un certain temps, être présentés, des artistes vont les visiter. Je crois que Georges Sand y va. Delacroix fait des dessins.
Nerval aussi,
c'est quand même étrange. La fille de cet homme médecine va mourir sur place. Elle est enterrée au cimetière de Montmartre. Elle s'appelait Pisse d'Ours, ce qui n'est pas très joli, mais bon, c'est comme ça. Et ça pose des tas de questions, parce qu'il n'y a pas encore de musée, mais il y a un intérêt. Et en même temps, est-ce qu'on est déjà dans le début de ce que vous avez appelé au musée du Quai Branly bien plus tard, les zoos humains?
Pas tout à fait, parce que je pense que l'objet de cette visite est de montrer des gens qui, comment dire, se présentent comme des chefs, des souverains, à un autre souverain. Donc on est dans une situation qui est différente de ce que seront les zoos humains, qui sont vraiment, à mon avis, extrêmement liés au contexte colonial, qui sont vraiment liés à l'économie coloniale.
Ce qui n'est pas le cas. Là, ce qu'il n'y a que de la passion, de l'intérêt,
voilà,
de la
curiosité. Là, il s'agit de montrer des individus. Les zoos humains sont vraiment destinés, font partie de toute une stratégie des grands pays colonisateurs pour arriver à convaincre les populations qui étaient, il faut le rappeler, très réticentes, qui n'avaient pas du tout envie de l'aventure coloniale. Donc les expositions coloniales, les différentes exhibitions, c'est une manière de montrer la richesse, la diversité de populations qui sont, au contraire, on insiste sur éventuellement leur ridicule, en tout cas leur nudité, leur pauvreté. Là, on est, je pense, dans une imagerie qui rappelle celle qui a finalement été dominante jusqu'au XVIIe siècle, même jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, qui est celle du bon sauvage, présenté avec noblesse, avec beauté, avec dignité, mais fragile et en voie de disparition. Donc on montre au roi un spécimen de quelque chose qui va disparaître.
C'est la grande mélancolie de Lévi-Strauss bien plus tard.
C'est la grande mélancolie de Lévi-Strauss, c'est le début finalement de ce que vont être ces musées de la disparition, en quelque sorte, qui tentent de saisir au vol quelque chose qui est condamné à disparaître.
Alors à la fin du XIXe siècle, avec beaucoup de difficultés, on va essayer de réaliser à Paris, au musée du Trocadéro, un ensemble cohérent et organisé scientifiquement de collections d'art non occidental.
Oui, il y a même un épisode antérieur qui est peut-être d'ailleurs lié à la visite de ces Indiens, qui est le musée américain du Louvre, puisque on oublie souvent que au sein du Louvre, ça a été créé un des premiers musées d'art précolombien, qui est finalement victime à la fin du siècle d'Auguste Comte, du positivisme et de l'idée qu'on doit distinguer l'art de la science et que donc les cultures qui relèvent d'une approche scientifique doivent être présentées dans un autre contexte que les œuvres occidentales. Ce qui est d'ailleurs assez... Moi, ça m'a toujours paru très mystérieux parce que je pense qu'il y a une sculpture comme la Victoire de Samothrace me paraît plus difficile à interpréter, par exemple, que cette peinture de Kathleen. Mais on estime qu'elle n'a pas besoin d'être interprétée, qu'elle se lit d'elle-même parce qu'elle appartient à notre passé, alors qu'un bas-relief aztèque, lui, doit être dans un autre lieu. Mais en tout cas, le Louvre est le lieu d'accueil de ce premier musée, bien avant le Trocadéro.
Les collections précolombiennes que vous avez récupérées au musée du Quai Branly, me semble-t-il.
Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'effectivement ce tableau raconte aussi l'histoire de toute une démarche, puisque les premières pièces de cette collection indienne viennent du cabinet des médailles, en fait, du cabinet des curiosités du roi, de Versailles. Et donc c'est toute une couche, c'est toute une histoire des collections qui s'accumule à partir pour le... L'item numéro 1 est un objet qui a été offert à Henri III. C'est une massue qui a été rapportée d'une expédition qu'avait tenté un groupe de protestants pour échapper aux guerres de religion dans la baie de Rio de Janeiro et qui a été rapportée en France au roi Henri III, qui a été incroyablement, mystérieusement conservé, parce que c'est un objet qui n'a aucun attrait pour un souverain de cette époque, c'est un bout de bois. Et c'est le début, en quelque sorte, de ce cabinet de curiosité qui va traverser les vicissitudes de l'histoire et constituer en quelque sorte la première couche de ce qui deviendra ensuite, bien plus tard, le musée du Trocadéro, puis le musée de l'Homme, puis le musée de la Porte Dorée, puis le musée du Quai Branly.
Alors le musée du Trocadéro, c'est la fin des années 70, nous sommes au 19e siècle. Ils essayent avec beaucoup de difficultés de réunir des collections. Très rapidement, l'argent manque. Les artistes le fréquentent néanmoins. Apollinaire a des découvertes extraordinaires, dont le fameux dieu de la guerre, le dieu Gou, qui est un des chefs-d'œuvre du pavillon des sessions. Et me semble-t-il,
absolument, c'est oui, hein, au Louvre aujourd'hui.
Est au Louvre aujourd'hui, et Apollinaire, justement, fait partie de ceux qui vont plaider pour cela. Alors je vous propose d'écouter à présent un texte de Guillaume Apollinaire, qui avait appelé dès 1912, mais il ne sera pas le seul, nous le verrons, à la création d'un grand musée d'art exotique qui serait à cet art ce que le Louvre est à l'art européen.
Jusqu'à présent, on n'a guère admis les œuvres d'art issues de ces pays que dans les collections ethnographiques, où elles ne sont conservées qu'à titre de curiosité, de documents, pêle-mêle, et parmi les productions naturelles de leur région. Il faudrait séparer de l'ethnographie les objets dont le caractère est surtout artistique et qui devraient être mis dans un autre musée. Il n'y a pas de raison qu'on ne fonde pas un grand musée d'art exotique qui serait à cet art ce que le Louvre est à l'art européen. On y transporterait tout d'abord la section d'art d'Extrême-Orient qui se trouve au Louvre. On y mettrait encore les différentes œuvres d'art qui ornent le musée du Trocadéro. Ce musée ne tarderait pas à devenir un des monuments les plus utiles à la civilisation.
Oui,
Le musée du Trocadéro, dégager des œuvres d'art qui l'encombrent, pourrait alors enrichir ses collections purement ethnographiques. La réforme du musée du Trocadéro s'impose. Guillaume Apollinaire, Exotisme et ethnographie, 1912.
Alors, ce qui s'est passé, Stéphane Martin, puisque nous parlons de l'aventure de ces collections, de l'aventure qui nous permet d'aboutir aujourd'hui à la célébration des 10 années du musée du Quai Branly et de voir la grande exposition autour de Jacques Chirac que vous avez préparée. Ce qui s'est passé n'est pas exactement ce qu'a annoncé Apollinaire. Les collections ne se sont pas réparties de cette façon-là. Le Louvre a résisté longtemps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore une situation pas si claire, pas très passionnante et très réussie, mais pas si claire. Et l'idée d'un musée d'art exotique, au fond, est-ce que c'était aussi bien qu'un musée dans lequel il n'y aurait pas de séparation entre les arts exotiques et les arts non exotiques ?
Ah, ça c'est un vaste sujet. Les Américains le traitent d'une manière tout à fait différente de la façon dont nous avons procédé. Il y a eu aussi l'épisode de Napoléon III et du musée de Saint-Germain et du développement de l'archéologie en France et d'un regard à la fois sincèrement, je pense, intéressé, mais très strictement scientifique sur ces objets, qui a encore compliqué les choses. Ensuite, il y aura l'aventure coloniale qui va jeter sur tout ça une sorte de trouble, parce que il y a des intérêts économiques à défendre, il y a une volonté de montrer l'Empire. Il y a heureusement le génie de Rivet qui conduit au premier musée de l'homme. Quand on regarde les photos de 37, c'est un lieu génial, absolument d'une modernité, d'une subtilité très grande. Et c'est amusant parce qu'en écoutant le texte d'Apollinaire, on retrouve pratiquement mot pour mot ce qu'a dit Malraux quand il a créé le Mao beaucoup plus tard, en disant il faut...
Alors le Mao, c'est pour les auditeurs, c'est le musée d'art africain et océanien qui était à la Porte Dorée.
Qui est une invention d'André Malraux qui se réalise par prélèvement sur le musée de l'homme d'un certain nombre d'œuvres dont André Malraux veut qu'ils soient montrés pour leur beauté, leur intérêt esthétique, en les arrachant, écrit-il quelque part, à un regard étroitement scientifique.
Alors, Stéphane Martin, pour poursuivre notre voyage parmi les objets et quelques chefs-d'œuvre de la collection, vous avez souhaité qu'on regarde une peinture. Cette peinture est une peinture inouïe, c'est une robe en fait, c'est une peinture sur une robe amérindienne d'Amérique du Nord, toute fin du XVIIe siècle, tout début du XVIIIe, autour de 1700, je pense, c'est-à-dire quand on fait la relation avec ce qu'était la peinture occidentale à ce moment-là, on ne peut qu'être stupéfait de l'incroyable virtuosité, qualité et profondeur psychique comme ça de cette peinture. Ça représente probablement un oiseau tonnerre et c'est fait par un artiste des plaines de l'Est, sans doute de l'Illinois.
Oui, cette collection de robes, c'est un petit peu ce que sont les Velázquez du Prado pour le Quai Branly. C'est une collection que le monde entier nous envie, même aux États-Unis.
Vous en avez trois, non ?
On a une quinzaine de pièces de cette époque, dont trois robes de ce style. C'est une collection qui est relativement importante en taille et dont il n'existe pratiquement pas l'équivalent aux États-Unis. Il y a quelques pièces qui ont été rapportées par Lewis et Clark, mais plus tard, et qui n'ont pas cette ancienneté et cette qualité. Alors, par ailleurs, graphiquement, évidemment, pour un regard moderne, en quelque sorte, elle est formidable, parce qu'on a l'impression qu'elle a été réalisée pour un visiteur du XXe siècle.
Absolument, elle pourrait être au Centre Pompidou, très bien. C'est donc vous avez la forme de l'animal, comme ça, la peau de l'animal, qui est
C'est un cervidé, c'est sans doute un cerf. On a également des peaux de bison qui sont beaucoup plus grandes, mais là il s'agit sans doute d'un cerf.
Et à l'intérieur, un cadre qui a été peint et qui suit certains des mouvements de la découpe de la peau, et une engobe ou une préparation blanche qui est parfaitement délimitée par ce cadre noir peint directement. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Stéphane Martin ?
Alors à l'intérieur, il y a un mélange de motifs abstraits et de motifs plus réalistes qui effectivement pourraient représenter un homme-oiseau ou un oiseau ou un oiseau tonnerre. Les spécialistes nous disent que chez ces populations, il y avait une séparation très stricte des styles entre les hommes et les femmes, et que donc les femmes peignaient des motifs abstraits, les hommes peignant des motifs réalistes, ce qui fait que cet objet, à l'intérieur même de son corpus, est un petit mystère.
Mais c'est probablement une femme, parce que c'était les femmes qui préparaient les peaux, qui les peignaient en général, non ?
Il semble qu'il y ait eu aussi des artistes masculins, ouais. Et que les artistes masculins peignaient un style différent de celui des femmes.
Ah oui.
Les conservateurs qui étudient ces collections, alors j'ai choisi aussi cette œuvre parce que elles ont été exposées longtemps au Musée de l'Homme. Encore une fois, elles font partie des œuvres les plus prestigieuses et de l'aventure de l'évolution de cette collection. Donc Dieu sait qu'on les connaît. Une d'entre elles a d'ailleurs été volée dans des conditions mystérieuses et romanesques au Musée de l'Homme et n'a jamais été retrouvée jusqu'à présent. J'espère qu'un jour elle reviendra à la...
Elle est exposée en ce moment.
On les expose par roulement. Elles sont évidemment, elles sont des conditions de conservation formidables parce que elles ont été offertes aux régents entre la fin du règne de Louis XIV et le début du règne de Louis XV. Et évidemment, les rois n'avaient pas grand-chose à faire, donc on les a roulées pieusement comme des cadeaux. Et elles ont traversé la Révolution française sans être déroulées.
Mais elles sont apparues quand, publiquement, alors
Elles sont apparues...
Dans le musée du Trocadéro, ou pas du tout
à peu près à l'époque du musée du Trocadéro. Jusque-là, elles étaient connues et répertoriées. Elles sont restées à Versailles très longtemps.
Ah, elles étaient à Versailles, oui.
Et mais n'étaient évidemment pas regardées. Elles étaient littéralement inregardables. On pense aujourd'hui que la plupart d'entre elles, d'ailleurs, sont des commandes, sont des peaux qui ont été fraîchement peintes pour être vendues ou offertes à des commerçants occidentaux qui eux-mêmes les ont offertes au roi de France, qui eux-mêmes les ont fait rouler et conserver. Donc elles sont dans des conditions de conservation extrêmement rares par leur état de fraîcheur. Donc on les montre par roulement. Elles nous sont aussi, ça c'est aussi un aspect de la vie des musées que vous connaissez bien, Jean, mais qui est très important. Elles nous sont demandées régulièrement pour des expositions, et donc c'est toujours un choix cornélien.
C'est difficile de prêter des œuvres de cette importance.
Voilà, dans quelles conditions, comment, alors, parce qu'on a toujours tendance à les prêter aux mêmes musées, qui sont ceux qui sont les plus puissants, et à frustrer des institutions plus petites qui pourraient peut-être faire des choses plus créatives. Donc c'est un grand débat de savoir...
C'est très compliqué, oui.
Quelle responsabilité...
Les grands musées, ça c'est aussi une occasion de faire des échanges avec eux, parfois d'obtenir d'autres prêts très importants pour vous.
Oui, la tentation, la politique logique est de prêter plutôt aux grands musées, mais je trouve que c'est toujours un peu frustrant, parce qu'il y a souvent des musées plus petits qui ont des initiatives formidables et qui sont peut-être plus créatives que les grands musées. Évidemment, ce sont des œuvres qui nous sont beaucoup demandées aux États-Unis en particulier.
C'était une œuvre qui avait été montrée dans la très belle exposition que vous aviez faite sur les Indiens des Plaines, qui était vraiment la première grande exposition sur le monde des Native Americans, des Amérindiens en France. C'était une exposition très importante. Et cette œuvre donc a été montrée pour continuer notre chemin dans l'histoire des musées. Donc elle a été montrée effectivement auparavant au Musée de l'Homme. Donc après le Musée du Trocadéro. En 1937, on crée le Musée de l'Homme. Alors là, il y a une équipe de chercheurs, il y a une équipe de militants, parmi lesquels il y a évidemment les RIS, mais beaucoup d'autres. Rivet, vous en parliez tout à l'heure. Et ça va devenir aussi une équipe de résistants, puisque pendant la guerre, les grandes équipes scientifiques du Musée de l'Homme s'opposent ou résistent, en fait, tout simplement.
Oui, d'après ce que je sais, ce que l'on dit le plus généralement, les conservateurs de musées pendant la guerre n'ont pas tous été particulièrement du bon côté de la barrière et n'ont pas eu un comportement héroïque, sauf justement au Musée de l'Homme, où un réseau s'est créé. Effectivement, ça a fait beaucoup pour la légende, au meilleur sens du terme, du Musée de l'Homme, bien sûr.
Alors nous allons examiner avec vous d'autres objets, en particulier une œuvre du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, une œuvre du MAO, comme vous disiez tout à l'heure, un fameux tambour à fente du Vanuatu, qui est une région que vous connaissez bien. Mais auparavant, puisque nous arrivons dans des périodes plus proches de nous, puisque je crois que cette œuvre a dû être achetée dans les années 70 à peu près.
Oui, c'est Jean Guihard qui l'a achetée.
Jean Guihard qui avait fait cet extraordinaire livre dans l'univers des formes sur l'art océanien et qui est un des très grands spécialistes de cela. Mais auparavant, je vous propose d'écouter à présent le fameux manifeste que le collectionneur Jacques Kerschach fait publier en mars 90 dans le quotidien Libération, appelant à la création d'un 8e département au Musée du Louvre dédié au patrimoine extra-européen. Et alors, je parle de cela parce qu'effectivement, l'œuvre que nous évoquons, me semble-t-il, est au pavillon des sessions.
Non, ce sont des fougères qui sont au pavillon des sessions.
Ah.
Les grands tambours sont au Cabranly.
On fera le lien quand même.
D'accord.
Écoutons Jacques Kerschach.
Le Grand Louvre du XXIe siècle constituera le lieu de reconnaissance des formes d'art existant dans ce qu'elles ont de plus remarquable. Pourtant, rien n'est officiellement prévu pour accueillir les objets issus des cultures africaines, américaines, arctiques, asiatiques et océaniennes dans ce qui deviendrait alors la 8e section. En effet, malgré le soutien de principe que les plus hautes autorités de la République apportent à cette proposition, des freins semblent se manifester à plusieurs niveaux du Grand Louvre. Ces résistances sont d'autant plus inquiétantes que le cahier des charges concernant la distribution des surfaces doit être prochainement déposé. Si aucune décision n'est prise, la France de 1989 aura entériné, par un aveuglement qui n'est pas sans rappeler celui qui a justifié la nuit coloniale, l'exclusion pour les décennies à venir des œuvres majeures produites par les trois quarts de l'humanité. Jacques Kerschach, manifeste publié dans l'édition du jeudi 15 mars 1990 du journal Libération.
On connaît le Grand Louvre avec des sections, c'est le département égyptien, il y a 100 000 œuvres. Vous connaissez la dimension des 7 départements du Grand Louvre. Bon, le projet qu'il y a là, c'est un projet tout à fait modeste, puisque c'est simplement pour les 4 millions de visiteurs qui viennent par an dans ce lieu et qui n'iront pas au Musée des Arts Africains océaniens, qui est excentré, et ni au Musée de l'Homme, qui ne le percevront pas de la même façon, en tout cas pour l'instant, c'est de présenter le meilleur de toutes ces cultures dans un département qui ferait 1000 mètres carrés, avec environ 80 pièces, ce qui n'empêcherait pas, si vous voulez, pour augmenter son niveau de lecture, aux gens que ça intéresse et à qui ça suscite un intérêt et une passion, ce qu'ils verront au Louvre, parce qu'il passe quand même 4 millions de personnes par an, d'aller augmenter leur niveau de lecture au Musée de l'Homme ou au Musée des Arts Africains Océaniens.
Alors nous écoutions la voix de Jacques Kerschach, pas cette voix mélodieuse qui est là à l'instant, mais la voix rocailleuse de Jacques, et qui est un, je ne sais pas comment on peut le définir, c'est quelqu'un qui a quand même transformé beaucoup de choses par sa passion. L'exercice de sa passion pris comme une force qui était capable de renverser effectivement des difficultés considérables. Moi, je l'ai, comme vous, Stéphane Martin, très bien connu. Pour moi, c'est, en dehors d'être un ami, c'est un œil impeccable, non ?
Oui, c'était quelqu'un qui avait un œil formidable et une passion de chaque instant. Il a été marchand pour constituer sa collection. D'ailleurs, il a été marchand relativement peu de temps, finalement. Et il avait une manière de sélectionner, de voir le meilleur, qui était absolument unique. Ouais.
Mais avec une façon, une curieuse façon de voir les choses globalement, c'est-à-dire d'essayer de trouver la perfection aussi bien chez un insecte que dans une momie paracas, que dans un objet africain, un objet précolombien. L'étendue de son inventaire personnel était immense.
Oui, c'était quelqu'un qui était finalement formellement très tolérant. Il s'est intéressé aussi à des artistes contemporains qui à l'époque étaient souverainement méprisés par le Centre Pompidou, par les grands conservateurs qui étaient considérés vraiment comme des... Il s'est intéressé à la gravure maniériste. Il avait des goûts tout à fait variés.
Le macabrisme le passionnait.
Absolument. Le macabre fin de siècle, Sarah Bernhardt, ce genre de choses. C'est quelqu'un de très libre intellectuellement, qui n'avait pas fait beaucoup d'études, c'était peut-être pour ça qu'il était aussi libre et indépendant, et qui avait un jugement non seulement très sûr, mais dont il ne doutait absolument pas. Il était redoutable dans une conversation parce que il n'était traversé d'aucun doute, et la plupart du temps d'ailleurs, il avait raison.
Et donc, il a conduit cette aventure du pavillon des sessions à laquelle vous avez été associé tout de suite. Comment ça s'est passé?
En fait, le projet tel qu'il apparaissait dans le manifeste était de réaliser un département un peu comme il en existe un au Metropolitan Museum. Quand donc Jacques Kerschach rencontre Jacques Chirac, retrouve Jacques Chirac devenu président de la République, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils ont entre-temps réalisé cette exposition Taino, qui dans le parcours politique de Jacques Chirac a joué un rôle symbolique très important. Ça s'est passé au moment...
Jacques Chirac est devenu un grand chef.
Surtout, ça s'est passé au moment où Édouard Balladur était en tête de tous les sondages, où personne ne pariait un copec sur les chances de Jacques Chirac. Et arrive cette exposition qui, d'une part, rend Jacques Chirac très sympathique. Les guignols le présentent comme un personnage absolument passionnant, amusant, passionné. Et ça coïncide avec le retournement politique. Ça n'en est pas la cause, mais ça coïncide chronologiquement. Donc c'est sans doute pour Jacques Chirac un très bon souvenir. Et donc quand Jacques Chirac est élu président, il appelle Jacques Herchache, ils sont d'ailleurs jamais vraiment quittés, mais ils partent ensemble sur ce projet. Et on s'aperçoit que le Grand Louvre est pratiquement terminé, qu'il va ouvrir et qu'il est impensable de faire quelque chose de la taille de ce qu'a fait Nelson Rockefeller au Met. Donc Jacques Herchache, qui est un homme pragmatique, c'est un visionnaire, mais c'est aussi un pragmatique, se convertit assez vite et dit, mais c'est très bien, on va faire un espace de nature, disons, symbolique au Louvre, les 1000 mètres carrés dont il parle dans le texte qu'on vient d'entendre, et puis un grand musée ailleurs qui sera autre chose. Alors cet espace symbolique, il a effectivement une force formidable, parce que d'abord il a été construit, comme on ne fait jamais un musée en France, c'est-à-dire par un seul homme. C'est vraiment pour le coup un musée imaginaire de quelqu'un qui rassemble des œuvres, qu'il a d'ailleurs dans la tête depuis très longtemps. Il a imaginé cette espèce de sélection idéale, et il a la possibilité politique et économique de la réaliser tout seul, sans équipe, sans demander l'avis de commission, sans s'entourer de ses pairs. Je vous vois sourire,
je vous dis que je m'en souviens, je le revois.
Vous imaginez tout le bonheur que ça peut représenter de travailler dans de telles conditions et au Louvre. Donc c'est évidemment une situation unique de pouvoir travailler dans ces conditions-là.
Alors je me souviens effectivement de lui et chez lui avec les maquettes des vitrines, les éclairages qu'il imaginait être exactement comme celui qu'il avait au-dessus de son canapé pour avoir une lumière légèrement dorée qui tombe comme une pluie douce sur les objets. Et il va très loin dans la définition de cela avec Villemotte qui était l'architecte. Avec Germain Viard, je pense qu'il commence à travailler là-dessus.
Absolument. Germain l'a aidé, absolument. Mais ce qui était aussi unique, c'est qu'il avait constitué cette espèce de liste idéale dans ses rêves. Cette liste comprenait un certain nombre de chefs-d'œuvre du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, du Musée de l'Homme, mais aussi de grands musées de province et des œuvres qui étaient dans des collections privées.
C'était pas facile, je pense, de demander à des musées de province de récupérer leurs chefs-d'œuvre.
Non, dans certains cas, ça m'a été un traumatisme.
Je me souviens de La Rochelle qui souffrait un petit peu. Absolument. Pour la statue de l'île de Pâques.
Lyon aussi. Enfin, il y a eu des moments un peu compliqués. Il y a eu des moments plus heureux où il a eu la possibilité d'acheter des œuvres, et dans beaucoup de cas, des œuvres qu'il connaissait.
Avec un bon budget, je dois dire.
Avec un bon budget, si ce n'est qu'aujourd'hui, quand on se souvient des polémiques à l'époque, la pièce la plus chère qui a été achetée pour le pavillon des sessions, et c'est le houli. C'était pas celui d'André Breton, mais évidemment cher à André Breton, qui est sans doute un des plus beaux du monde.
Vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un houli?
Un houli, c'est une sculpture extrêmement masculine, si on peut dire, venant de Nouvelle-Irlande, donc une partie de la Nouvelle-Guinée, et qui est une sorte de degré zéro de l'objet surréaliste. C'est vraiment l'objet qu'a désiré André Breton toute sa vie. Il a vendu une grande partie de sa collection pour s'en offrir un à la fin de sa vie, qui était d'ailleurs pas tout à fait aussi beau que celui que Jacques Herchache a fait entrer au Louvre. Celui qui est entré au Louvre, si je me souviens bien, on l'a payé 4 800 000 francs à l'époque. Aujourd'hui, ce serait donc 20 ans après, pas tout à fait, une œuvre qui vaudrait peut-être trois fois ce prix-là. Donc ces acquisitions, non seulement ont été une grande chance pour l'enrichissement des collections, mais je dirais de manière encore plus pragmatique, ça a été souvent de bonnes affaires.
Alors ça a été un combat, objectivement très difficile, d'imposer cela. La conservation du Louvre a eu quelques difficultés à l'accepter.
Pierre Rosenberg qui était le président du Louvre à l'époque et qui était très opposé à ce projet, tout en expliquant son amour sincère d'ailleurs pour les arts premiers, avait une vision du Louvre qui était finalement une vision intelligente et idéale, qui était de dire il faut en quelque sorte banaliser le Louvre. Il faut que Paris se dote progressivement d'une série de musées qui sont tous situés sur le bord de la Seine, donc on peut circuler en bateau ou à pied assez facilement. Et il faut que le musée, on est là avant l'ouverture du département des arts de l'islam, autre projet chiracien, il faut que le musée devienne finalement, le Louvre devienne un musée parmi d'autres que l'on visitera à pied en allant depuis l'Institut du Monde Arabe jusqu'au Trocadéro. Alors, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait intéressant d'un point de vue logique, sauf que ça ne correspond pas à la situation sociologique du Louvre, qui est les visiteurs du Louvre sont essentiellement des gens qui ne vont pas ailleurs, ce ne sont pas des visiteurs de musées pour la plupart d'entre eux, et si on ne les attrape pas au Louvre, on les attrape nulle part. Et c'est ce qu'explique très bien Jacques Herchage dans le texte qu'on entendait tout à l'heure. Il faut attraper les visiteurs de la Joconde et les amener à voir quelques objets. Ensuite, on verra
s'ils vont plus loin. Qui sont une quinzaine de Jocondes par eux-mêmes. C'est quand même dans toutes les civilisations, des chefs-d'œuvre absolus. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent bien cet ensemble-là, mais c'est quand même saisissant. Et la qualité de la présentation, de la lumière, c'est...
Oui, d'abord, il n'y a qu'à peu près 100 pièces sur 1000 mètres carrés. Donc, ce n'est pas du tout la densité habituelle du Louvre. Et on a tellement l'habitude de voir les pièces d'art primitif présentées comme de la bijouterie, si j'ose dire, dans des petits cabinets illuminés. Là, on les présente exactement comme on présente la sculpture grecque ou la sculpture romane dans une salle à côté, c'est-à-dire avec la lumière du jour et avec une majesté, une dignité qu'on n'avait jamais accordée finalement à ces sculptures jusque-là.
Alors, il y a une œuvre que vous souhaitiez qu'on évoque pour le pavillon des sessions, qui est le fameux poteau des îles Salomon. Étrange objet, une sorte de couple enlacé.
Oui, c'est un objet qui n'est d'ailleurs pas très caractéristique de l'art des îles Salomon, parce que ce type de sculpture...
Vous avez été, je crois. Hein?
Oui, c'est un endroit où je suis allé, il y a pas très longtemps d'ailleurs encore, et que j'aime tout particulièrement, comme le Vanuatu. Les représentations, disons, érotiques, comme celle de ce couple enlacé, sont très rares, à ma connaissance, dans l'art des îles Salomon.
La position est presque la même que dans le baiser de Brancusi.
Oui, absolument. Ça rappelle tout à fait une œuvre de Brancusi. Mais c'est une statue qui a une histoire qui me touche. Elle a été collectée par quelqu'un que j'ai bien connu et que j'aime beaucoup, qui s'appelait Pierre Langlois, qui est mort l'année dernière, qui était une sorte de Jacques Herchage en moins connu, un marchand, un collectionneur, un aventurier, quelqu'un qui a parcouru le monde et qui a d'ailleurs beaucoup travaillé avec Jacques Herchage. Ils ont été en quelque sorte partenaires, associés pour les œuvres tabac, en particulier pour la collection que Jacques Herchage avait réalisée sur les tabacs. Il a ramené lui-même cette œuvre. Et ensuite, elle a été vendue à Jean-Paul Barbier-Muller, qui est aussi un collectionneur que j'estime profondément. Et au moment de l'ouverture, Jacques Herchage a convaincu Jean-Paul Barbier-Muller d'offrir cette sculpture au pavillon des sessions. Donc elle a une histoire sentimentale qui me touche, les îles Salomon, Pierre Langlois, Jean-Paul Barbier-Muller. Et par ailleurs, c'est une œuvre, je trouve, très, très touchante, ces deux petits visages qui sont rapprochés l'un de l'autre. Il y a un autre de ces poteaux se trouve dans la collection Ménil. Il y en avait 4 ou 5 qui sont dispersés à travers le monde.
On sait de quoi il s'agit. C'est des poteaux de case ou c'est des poteaux de...
On sait très mal ce dont il s'agit. Ce sont, oui, des poteaux de case. Il y a d'ailleurs la partie supérieure permet de soutenir une mortaise ou un système de construction.
C'est très grand. Je dis ça pour nos auditeurs qui se rendent compte que ça fait quand même 2,10 mètres de haut. C'est-à-dire que les personnages sont quasiment... La base des personnages sont quasiment à la hauteur de vos yeux.
Voilà. Le poteau total fait plus de 2 mètres et la partie sculptée fait à peu près 70 centimètres. Et en fait, Pierre Langlois les a achetés dans une île qui n'est sans doute pas celle où la maison avait été construite. Ils avaient déjà été, semble-t-il, déplacés une première fois par un collectionneur allemand. Ce sont des sculptures qui, vraisemblablement, ont été réalisées au XVIIe ou en tout cas au début du XVIIIe siècle.
Quand on mettait ces poteaux dans les maisons, c'était vraiment des poteaux qui portaient les ossements des morts ou qui étaient très liés. C'était des maisons d'initiation pour les adolescents ou plus. D'ailleurs.
Oui, vous savez, dans le Pacifique, on ne sculptait pas pour le plaisir de la décoration intérieure, donc ce sont toujours des œuvres extrêmement ritualisées. Dans le cas des cultures auxquelles appartiennent ces îles du sud des Salomon, donc on est très près du Vanuatu, on n'est pas très loin du tambour à fente. Effectivement, ce sont des systèmes de grades, ce sont des systèmes où des formes de la maison des hommes qu'on retrouve sous des formes encore plus sophistiquées en Nouvelle-Guinée sur le sépi qui existe. Donc ces poteaux étaient destinés à des maisons collectives, mais dans lesquelles n'importe qui n'entrait pas, évidemment.
Alors on est dans l'ouest du Pacifique, hein, pour que vous voyez bien, on est à au sud-est, grosso modo, de la Nouvelle-Guinée, à peu près.
On est à l'endroit où la Pérouse a fait naufrage.
Vanikoro.
Tout près de Vanikoro.
Tout près de Vanikoro, oui. Et vous parliez des tambours à fente, puisque nous avons escamoté légèrement ce tambour à fente qui est d'une beauté folle, avec, c'est faut imaginer, cet immense tambour à fente. Mais quelle taille fait-il, d'ailleurs?
Il doit faire 3 mètres de haut, à peu près, quelque chose comme ça.
Et donc, il y a des petites mains derrière le cou, très étrangement sculptées, et puis des spirales avec des sortes de dents de cochon qui vont apparaître.
Oui, c'est un objet difficile à décrire. D'abord, le système du tambour à fente, donc, il faut imaginer un tambour vertical qui est fendu par une lèvre qui était donc destinée à être battue sur les côtés, qui produisait d'ailleurs des sons de très grande beauté et très différents selon l'endroit où on les bat. Et la partie purement musicale est dominée par une tête qu'on retrouve d'ailleurs, qui est un motif qu'on retrouve au Vanuatu également sur les pierres à cochon, qui est une sorte de visage avec des grands yeux lunaires. Cette sculpture-là n'est pas très ancienne.
Les yeux sont très spiralés, donc on voit là vraiment, il y a une hypnose quasiment.
Oui, c'est sans doute une forme de ces tambours qui est déjà un peu décadente. Ce sont des tambours qui datent de la moitié du XXe siècle, qui ont été collectés relativement tardivement, mais selon un prototype, je dirais, qui lui est très ancien.
Et vous en parlez parce que ça vous rappelle la présentation très particulière qu'il y avait des tambours à fente au musée d'art africain océanien. Là, on est avant le pavillon des sessions et on est avant le Quai Branly. C'est l'avant-dernière étape, au fond.
Oui, lorsque Malraux donc réalise le musée de ses rêves, il n'a pas beaucoup de bâtiments à sa disposition et donc il s'installe dans l'ancien musée des colonies, qui est d'abord un merveilleux bâtiment de la Prade, un chef-d'œuvre.
Superbe.
Mais un bâtiment
qui
extrêmement
connu.
Qui est
devenu musée de l'immigration aujourd'hui.
Voilà.
Et qui est un très très beau musée, toujours d'ailleurs.
Il est doublement connoté, si on peut dire, par son passé colonial et par la force de la décoration, les lacs de Dunant et l'architecture générale de la Prade. Donc c'est très compliqué de réaliser une véritable muséographie dans cet endroit. Et je trouve qu'une des choses qui étaient les plus belles, c'était Guiard lui-même, d'ailleurs, qui avait imaginé ça, c'était de reconstituer la place publique d'une de ces îles du Vanuatu où ces tambours étaient fichés littéralement dans le sol. Tel qu'il est présenté au musée du Quai Branly, il y a une sorte de base qui permet de se ficher dans la terre du village, et ils étaient légèrement inclinés. On a d'ailleurs essayé de reconstituer, ils sont présentés au musée du Quai Branly, sur quelque chose qui est à la fois une reconstitution de cette place de village telle qu'elle existait dans l'île d'Embrim, mais aussi un hommage à cette muséographie qui était très colorée et très particulière qui avait été réalisée au
musée d'art africain
océanien autour de ces sculptures.
Alors, après, il y a eu un événement considérable. Vous avez réussi à construire sur cette suite d'initiatives, sur un siècle presque, le musée du Quai Branly. Au bout de 10 ans, on se rend compte que ça a dû faire... Enfin, aujourd'hui, vous êtes presque 1,5 million de visiteurs chaque année environ, avec une collection de toute beauté, un programme d'exposition extrêmement divers, complexe, appuyé, avec des intérêts pour le monde contemporain, des intérêts pour les grandes traditions fondatrices, primordiales, si je puis dire. Ça a été un événement extraordinaire. C'est une architecture qui a été très discutée, elle aussi, mais qui est très passionnante, celle de Jean Nouvel. Quelle aventure ? 13 ans, 14 ans de
oui,
votre
le,
vie sur
le,
cette affaire ?
Ça a été une longue aventure. Le point de départ, effectivement, était Jacques Kerschach. Et donc un musée des arts premiers, assez vite, on s'est aperçu qu'à partir du moment où on allait y mettre l'ambition d'une grande architecture et que Jacques Chirac était l'homme du dialogue des cultures, il fallait aller au-delà simplement d'un musée et de l'esthétique de l'art premier. Donc pendant la période de construction, où un certain nombre de gens éminents, vous parliez tout à l'heure de Germain Viat, par exemple, qui a joué un rôle tout à fait central dans cette aventure, Jean Nouvel lui-même, qui avait des idées très, très arrêtées, Yves Le Fur, quelques autres, on a essayé d'imaginer un lieu qui d'abord rompe avec cette vision pessimiste, finalement, qui, à mon avis, a trop longtemps marqué les musées d'ethnologie, c'est-à-dire on va vous montrer des choses qui vont disparaître ou qui ont déjà disparu, mais essayer de montrer le monde de l'autre, à la fois dans son versant effectivement ancien, mais aussi dans son versant contemporain, d'une manière qui soit enthousiaste, positive et joyeuse à chaque fois qu'on le peut. Alors c'est une aventure qui a été longue. Il a fallu d'abord choisir l'architecte, trouver un terrain, construire le musée, et puis ensuite fabriquer un public. Aujourd'hui, effectivement, le musée a à peu près entre 1,3 million et 1,5 million visiteurs chaque année, qui pour beaucoup sont des jeunes, sont des gens qui ne vont pas au pavillon des sessions, par exemple.
J'ai vu qu'il y avait 50% de primo-visiteurs presque en permanence, c'est-à-dire des gens qui viennent pour la première fois.
Il y a 50% de primo-visiteurs, moi je dirais que ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a 50% donc de gens qui viennent plusieurs fois. Et la relation qu'on essaye de bâtir avec ces usagers du Quai Branly, c'est plus une relation, je dirais, qui rappelle celle que Malraux, justement, voulait bâtir avec les usagers des maisons de la culture, que celle du visiteur d'une statue dans un square.
Vous ne voulez pas qu'on vous visite, vous voulez qu'on vous fréquente.
Absolument.
Comme on disait autrefois.
C'est ça l'idée, j'aime bien qu'on me fréquente.
Alors, ça a été aussi une grande question sur qu'est-ce qu'on y met, parce qu'il a fallu récupérer une partie de ce qui était le musée de l'homme, mais pas tout. Comment ça s'est passé?
Le point de départ était effectivement la collection du laboratoire d'anthropologie du musée de l'homme et la collection du musée des arts d'Afrique et d'Océanie. Ce qui a été la grande innovation, je dirais, pendant le cours des travaux, ça a été de décider que la moitié de cet espace serait consacrée à des expositions temporaires. Donc le musée du Quai Branly, c'est à la fois une énorme collection, mais aussi un espace d'aventure, un territoire de découverte pour des expositions temporaires.
Parce qu'il y a plusieurs espaces pour les collections. Il y a un grand espace pour les collections qui se développe sur une très grande surface, effectivement, et qui se visite. Vous pouvez passer d'un monde à l'autre d'une façon assez continuelle et sans rupture. Réellement, c'est très beau, ça, je trouve. On glisse comme ça. Et puis, il y a quatre espaces d'exposition.
Quatre espaces d'exposition qui font au total à peu près 4000 mètres carrés. Il y a à peu près 4500 mètres carrés de permanents, 4000 mètres carrés de temporaires. Et ce temporaire donc permet de réaliser des expositions qui, dans certains cas, traitent de sujets qui sont abordés par les collections. Par exemple, en ce moment, les îles Marquises. Mais évidemment, développer l'exposition sur les îles Marquises fait 2000 mètres carrés. Donc c'est une énorme exposition. Mais aussi de sujets qui ne sont pas traités par les collections. La prochaine exposition, par exemple, s'appelle Color Line. Elle est consacrée à l'histoire de la peinture afro-américaine pendant la période de la discrimination aux États-Unis, donc des peintures qui ne figurent pas dans les collections.
Comme vous aviez fait une exposition sur le jazz avec Daniel Soutif à une
époque. C'est le même commissaire. C'est Daniel Soutif qui est aussi commissaire de Color Line.
C'est très réussi, donc je pense que ça va l'être à nouveau.
Donc c'est à la fois un espace d'interrogation, de questionnement de cette collection nationale qui a un lourd passé, comme on vient de le raconter, et aussi d'ouverture à de nouveaux territoires. Je crois qu'une des originalités aussi du Quai Branly, c'est d'avoir autant de commissaires invités venant de l'extérieur. L'extérieur pouvant être des spécialistes qui ne sont pas nécessairement des anthropologues, ou en tout cas qui n'appartiennent pas à l'équipe du musée du Quai Branly, ou même tout simplement de gens qui viennent des pays d'origine des collections. Donc tout ça donne une très grande diversité de regards. Je crois que c'est ce qui fait peut-être la spécificité de Branly par rapport au département d'art premier tel qu'on peut les connaître au Metropolitan Museum, par exemple, ou dans certains grands musées américains, ou au grand musée d'anthropologie, à commencer par celui qui va ouvrir à Berlin prochainement, le Humboldt Forum.
J'ai hâte de voir ça.
C'est-à-dire d'être un lieu où tout le monde peut prendre la parole, y compris sur des sujets apparemment pas sérieux, comme Tarzan, par exemple, ou comme le kitsch polynésien. Ce sont des sujets qu'on a traités.
Vous l'avez traité, c'était Tiki, ça, je crois. C'est comme
expression. Oui, Tiki, mais derrière ce sujet apparemment pas sérieux, il y a quelque chose de tout à fait passionnant qui est la réflexion sur ce qu'est l'exotisme. Et comment un pays qui n'a pas de passé colonial se fabrique finalement une sorte d'exotisme parfait, d'exotisme de synthèse, à partir d'une sorte de paradis imaginaire, qui à la différence de l'exotisme tel qu'on le fréquente nous depuis Loti et les autres, c'est-à-dire un exotisme que le blanc va abîmer à partir du moment où il le touche, il le fait disparaître comme un mirage. Les Américains, de façon beaucoup plus pragmatique, inventent un exotisme synthétique, solide, une sorte d'ancêtre, en quelque sorte, de ce que seront les parcs Disney, dont on peut jouir pleinement. Et donc, cette exposition, c'était à la fois une réflexion sur le rapport, la manière dont l'Occident a torturé, dans certains cas, ses cultures d'origine en les ramenant, finalement, parfois à des objets de consommation. Et en même temps, une réflexion sur ce qu'est l'autre, et sur ce qu'est le bon goût et le mauvais goût aussi.
Alors, parmi les choses dont vous aviez l'envie de parler, et je pense que c'est une façon de rendre encore une fois un hommage à Anne-Jacques Kerschach. C'est une des dernières acquisitions du musée, une sculpture Tshokwe. Tshokwe, c'est Angola. Une sculpture absolument extraordinaire, dont je me souviens très bien chez Kerschach, effectivement, au-dessus de sa cheminée, derrière sa télévision, et qui était absolument fabuleuse. Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors là, c'est un objet de beaucoup plus petite taille, il fait à peine plus de 30 cm. C'est un objet extrêmement précieux. À première vue, on pourrait, je trouve, le prendre pour un objet japonais.
Cause de son poli, la texture du bois.
Il est extrêmement fini, poli. D'ailleurs, les spécialistes expliquent qu'il a sans doute voyagé avec son propriétaire, qu'il a été transporté comme un trésor, en quelque sorte, dans la migration Tshokwe. Donc, les Tshokwe sont une population qui vit à cheval sur le Zaïre et l'Angola, et dont les pièces les plus célèbres sont ces petites sculptures, en général d'une quarantaine de centimètres, qui représentent Chibinga Ilunga, le héros fondateur, ou l'incarnation à travers de ce héros fondateur d'un souverain.
On sent une puissance, hein, parce que le personnage donc est très recroquevillé, comme tendu, les mains en avant crispées sur un étrange objet de musique, une sorte de c'est quoi, c'est un piano à pouce.
C'est un piano à pouce, oui, c'est une sansa. Ce que je trouve très très beau, outre la qualité de la sculpture, la puissance du visage, de la coiffure, etc., c'est que on y voit la représentation donc d'un souverain au fait de sa puissance. Il est avec ses immenses mains d'un homme très puissant. Il est manifestement le roi qui s'est fait représenter là, s'est choisi un emblème. Il n'a pas choisi une arme, il a choisi une sansa, qui est un instrument qui n'a aucun caractère sacré, pour autant que je sache, qui est un pur instrument de musique. Il faut imaginer Louis XIV avec un ocarina. Il faut imaginer un roi guerrier qui choisirait comme emblème, non pas un symbole militaire, non pas un instrument de musique associé aux pompes et aux circonstances de la majesté, mais un objet populaire qui produit par contre un son merveilleux. Et c'est par ailleurs une sculpture qui est, je pense, qui peut séduire tous les visiteurs, quel que soit, je dirais, leur rapport à l'histoire de l'art. C'est à la fois un objet très classique dans sa forme, encore une fois très fini, très réaliste, et en même temps qui exprime une très grande émotion. Pour moi, c'est une des plus belles images à la fois de la musique et du pouvoir et de la sagesse, en quelque sorte, de la manière d'exercer le pouvoir.
Peut-être que pour montrer sa puissance, il est assis sur un siège qui, dit-on, est un siège européen, et que ça montre sa puissance sur les Européens, justement.
Oui, les Tshokwe ont d'ailleurs tout un mobilier qui était inspiré, des chaises longues magnifiques d'ailleurs, qui étaient inspirées du mobilier européen. En même temps, je ne sais pas si vous la lisez comme moi, Jean, mais je trouve que c'est une sculpture qui, manifestement, s'intéresse beaucoup plus à la partie haute qu'à la partie basse.
Oui.
Les jambes sont relativement simples. Effectivement, il y a ce siège européen qui est intéressant. Cette coiffure absolument incroyable.
Qui est très typique des Tshokwe, hein, c'est de savoir qu'est-ce que c'est. C'est une sorte de chapeau qui revient vers l'arrière.
C'est si j'ai bien compris, un mélange de paille qui est tressé avec les cheveux. Donc c'est une coiffure très, très, très complexe et très sophistiquée, qui est évidemment avec laquelle on ne peut pas se coucher. Donc les Tshokwe produisaient aussi d'ailleurs des appuis nuques très sophistiqués qui permettaient au roi de survivre quelques jours avec cette coiffure. Et puis il y a cette tension, la façon dont le corps est légèrement penché vers l'avant, la bouche ouverte. Je trouve que c'est un objet absolument merveilleux, d'un corpus très restreint et à mon sens le plus beau de tous.
Écoutez, j'espère que les collections vont continuer à se développer. Sincèrement, visiter le musée est passionnant, visiter cette exposition est important. Ça a été une histoire dans laquelle les artistes ont eu un rôle fantastique, qui n'ont pas arrêté d'être derrière la possibilité de créer ce musée, au fond, depuis 150 ans. Les plus beaux noms, Breton, Apollinaire, mais aussi Fénéon et beaucoup d'autres, ont accompagné cette histoire.
Absolument. D'ailleurs, on honorera Fénéon dans quelques années.
Ah, c'est une bonne idée. Merci infiniment, Stéphane Martin, et bravo pour ces belles années que vous venez d'organiser autour de ce musée merveilleux.
Merci, Jean de Loisy.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était les regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observer, écouter, regarder l'aventure extraordinaire du musée du Quai Branly à travers quelques œuvres relatives à l'histoire de ses collections. Vous retrouverez toutes les références des œuvres évoquées sur le site franceculture.fr. Et c'est donc le week-end spécial du Quai Branly sur France Culture à l'occasion de ce 10e anniversaire du musée. Je vous rappelle qu'il vous reste quelques heures pour profiter des nombreux événements gratuits qui ont lieu au sein du musée pour l'occasion. Jusqu'à 19h, vous pouvez encore aller, aujourd'hui, assister à des performances artistiques, des ateliers, des visites guidées et beaucoup d'autres choses. Attachée d'émission et site internet Sylvia Favre, merci Sylvia, lecture des textes Jean Ocoterel et Pascal Zonzi, et à la technique Pierre Mine. Réalisation Franck Lilin, merci Franck, Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et Jean Deloisy. Et dans quelques instants, Catherine Libert et Ville Monde.
Before you go, babe, go until you come, babe, come until.